les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Mireille Mathieu, c'est l'immuable. C'est, encore aujourd'hui, les mêmes chansons d'amour et la même coiffure qu'à ses 20 ans, comme le soulignait déjà en 2005 Libération, dans un portrait titré « Une certaine idée de la frange ». C'est par la télévision qu'une France inconsolable de la disparition d'Édith Piaf découvrit en 1965 une toute petite demoiselle d'Avignon qui travaillait en usine depuis ses 14 ans, avait 13 frères et sœurs et chaussée du 33. C'était dans le télécrochet « Le jeu de la chance » du télédimanche de Raymond Marcillac. C'était pour Mireille Mathieu le début d'une grande carrière que Johnny Stark guida avec l'autorité d'un père spirituel. Mireille devint une immense vedette aux succès internationaux, l'éternelle ambassadrice d'une France qui va à petits pas. Mais si Mireille Mathieu, c'est toujours un peu la France du général, la France des Trente Glorieuses, du 4e et 5e plan, de la Caravelle et des Déesses, Mireille Mathieu, c'est aussi une voix unique qui chante en 11 langues, 130 millions d'albums vendus dans le monde entier, des duos avec les plus grands, une carrière d'un demi-siècle que seul le talent et le professionnalisme autorisent. On la retrouve en 2005, intacte, au micro d'Hélène Azéra dans Chanson Boom.
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendu quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient là aussitôt.
Chanson Boom, la chanson en question, entretien avec les acteurs de la chanson contemporaine par Hélène Azéra.
Boom, 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 boom.
Bonsoir Mireille Mathieu.
Bonsoir Hélène.
Alors, nous vous remercions beaucoup d'être avec là, puisque il y a l'Olympia qui se prépare, donc vous séchez quelques répétitions.
Oui, je suis très fébrile Hélène, je dois vous dire, en plus à cette heure tardive, je suis très fébrile, oui.
Alors, nous on reçoit évidemment la chanteuse et on a envie de parler de métier. Je crois que les gens ont un peu tendance à demander aux artistes toutes sortes de questions et oublient de les interroger sur l'essentiel, qui est le savoir qu'ils ont acquis sur scène et en choisissant les chansons. Alors donc là, il y a un nouveau récital qui se prépare, il y a un disque qui est sorti et on va beaucoup parler de comment aujourd'hui vous choisissez vos chansons, comment on vous amène vos chansons, parce qu'une chanteuse, c'est aussi un répertoire.
Bien sûr, vous avez raison de souligner tout cela, Hélène. C'est-à-dire que, bon, je vais me produire à l'Olympia du 18 novembre au 27 novembre, et après, je fais une tournée, ce que je fais peu, je me produis peu en France, parce que j'ai la chance de faire le tour du monde. Mm-hmm. Mais quand je voyage, je suis une chanteuse française et fière de l'être et de le dire, et de le chanter. Et puis bon, le choix des chansons, c'est mon 38e album. Alors j'ai souhaité travailler avec une nouvelle équipe. C'est-à-dire que je pense que cet album, il y a une couleur différente pour certaines chansons et une couleur plus classique, disons, une couleur un peu plus moderne par la personnalité de Patrick Imparsoumian, qui est un garçon qui est à la fois musicien, arrangeur et compositeur. C'est lui qui a écrit pour moi Une place dans mon cœur, Ton nom est ma seule prière. Il a fait des arrangements. Mmh. Il a travaillé avec Patrick Fiori, Florent Pagny et beaucoup d'autres. Mmh. Et il y a Sophie Non.
Comment est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec vous? Comment devient-on un compositeur ou un auteur de Mireille Mathieu?
Alors d'abord, je souhaitais travailler avec une femme qui s'appelle Sophie Non. Mmh. Sophie Non, pour nos amis qui nous écoutent, c'est elle qui a écrit L'aveu de Garou. J'avais trouvé cette chanson formidable. Et donc, on s'est occupé pour que je puisse la rencontrer. On s'est rencontrés l'année dernière, en décembre dernier. Et elle m'a dit, au contraire, je souhaiterais travailler avec vous. Elle est québécoise. À la base, elle avait pris des cours de comédie. Mmh. un peu à l'américaine, c'est-à-dire des coups de comédie. Et puis après, bon, elle s'est mise à apprendre la poésie, à se perfectionner. Et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. C'est une femme qui, en plus, elle est disponible, elle est sensible. Elle est, quand on la voit et quand elle parle, souvent on s'est parlé. D'abord, je l'ai vue. Elle m'a dit, Mireille, qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je demande à tous les auteurs et compositeurs, surtout les auteurs, que le texte, je dis, ce que je vous demande est peut-être difficile parce que ce sont les choses les plus simples et les plus difficiles. C'est-à-dire que les mots de la vie, ce qui me touche, moi, ce qui me touche, c'est une histoire entre un homme ou une femme. Il y a d'autres personnes qui souhaitent parler d'autre chose, mais moi, personnellement, que l'amour. Les gens se sentent concernée, que si je m'adresse à quelqu'un, je le regarde et je lui parle et je lui chante selon le texte, parce que une chanson, c'est un tout petit film. Donc il faut développer ce petit film et amener, s'il y a bien sûr des sentiments, et c'est ça le but, ou une émotion, de si je ressens cette émotion, de la transmettre au public. Et donc je crois que ça a bien fonctionné avec Sophie. Et puis, donc Sophie était accompagnée d'un éditeur, Thierry Perrier. Et c'est Thierry Perrier qui m'a permis de connaître Patrick Imparsoumian, Julien Melville, qui Julien Melville, lui, à la base, était bassiste. Et puis après, il a pris aussi des cours de poésie et il a fait tous les tubes de rock voisine. Donc Julien, c'est lui qui a écrit Une place dans mon cœur avec Patrick Imparsoumian.
On pourrait commencer par l'écouter.
Ah, bien sûr, avec plaisir.
Donc Une place dans mon cœur, Julien Melville et Patrick Imparsoumian.
Quel est ce sentiment qui soudain nous retient, l'annonce d'un rivage au terme d'un long voyage, tout ce bonheur qu'on sent sous le cristal du temps, un peu plus qu'un regard, le début d'une histoire, c'est un d'un instant, soudain dans un sourire, mordre le désir, c'est toi qui me surprends. Au premier frôlement, toi qui m'emportes loin, par la danse de tes mains, c'est un
une place dans mon cœur, Julien Melville, Patrick en part soumis. Voilà, j'ai réussi à le
dire. Très bien, Hélène.
Donc, Véry, tu as toujours cette chose, comment on choisit les chansons. Et en fait, vous voulez rencontrer les auteurs
oui.
pour qu'ils écrivent, ils vous fassent du sur-mesure, quoi.
Oui, du sur-mesure. Je crois que c'est important de les rencontrer. C'est difficile d'avoir une complicité immédiatement parce qu'ils ne me connaissent pas. Moi, je ne les connais pas. Dans l'album, il y a Francis Lee, et lui me connaît, puisque on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est important qu'on puisse rencontrer, exprimer mes goûts. Aussi peut-être dire aussi c'est important qu'ils puissent dire mais est-ce que vous aimez ça et tel mot, j'aime les sons ronds, j'aime les belles voix, j'aime les sons très beaux, et j'ai la chance de travailler ma voix parce que la voix est un muscle qu'il faut travailler à bon escient, et j'ai la chance de travailler avec une très grande dame, c'est plus qu'un professeur parce qu'elle a travaillé avec madame Maria Callas. Il faut que j'explique que la première fois que je l'ai rencontrée, elle ne voulait pas travailler avec moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je dis, madame, si c'est moi, je veux travailler avec vous. Mais qu'est-ce que je vais vous apporter ? Si je lui dis beaucoup, madame, parce que, évidemment, vous enseignez le classique, l'art lyrique, évidemment, ce qui est le summum. Mais je dis, écoutez, ce que vous aimez m'apporter techniquement, je vais me l'approprier à moi personnellement, ma personnalité, la technique. Je lui ai expliqué, vous savez, quand on enregistre des disques, l'après-midi, il y a les premiers violons de l'Opéra de Paris qui sont là, présents. Le soir, ils jouent Carmen, mais ils viennent faire nos disques. Donc, ça revient à la même chose. Parce que quand je vous dis le beau son, c'est pas des sons fermés, c'est des sons ouverts. C'est des beaux hauts. Et quand je demande aux auteurs qu'à un moment, c'est très aigu, que ça soit ouvert et pas fermé, que le son soit pas fermé, c'est pour ça qu'en italien, quand il y a de l'opéra italien, c'est magnifique. Comme, bon, Carmen, c'est en français, c'est beau. Et des sons ronds, c'est, je tiens beaucoup
c'est
à ça.
Sur la note aiguë, il faut plutôt
oui, il faut pas un son fermé.
Un A plutôt qu'un I ou un R.
Voilà, exactement. C'est tellement beau, il y a les sons qui s'y prêtent. Et c'est important, j'y tiens beaucoup que ça soit des sons ouverts. Donc c'est important de travailler,
c'est
de parler ça.
Un exercice de style pour
d'en parler avec les auteurs, d'en parler avec les auteurs quand c'est ouvert. J'ai travaillé très très longtemps avec un auteur, un vraiment très grand, et il me manque beaucoup, c'est Eddy Marnay. J'avais pas besoin de le dire, il savait parfaitement. Mais je crois que bon, les auteurs maintenant commencent à comprendre ça, parce que d'entendre les sons fermés, je trouve ça terrifiant. Chanter dans le nez aussi, c'était pour moi c'est une chose inconcevable. Si on n'apprend pas les cours de chant. Souvent, je rencontre des journalistes et on me dit « Ah bon ? Vous travaillez votre voix ?» Mais je dis, c'est plutôt votre question qui me semble saugrenue.
Vous lisez les notes ?
Non, je ne connais pas du tout la musique.
Vous ne travaillez qu'à l'oreille.
Je travaille qu'à l'oreille. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est encore double travail, si je puis dire, entre guillemets, c'est pas un travail. Mais quand de bon.
Il y a la mémoire.
Pour
la mémoire.
Mais moi, bon, je sais que je dois monter, je fais une flèche, je sais que je dois descendre, mais je me débrouille. Et puis en plus, bon, quand on aime ce que l'on fait, c'est beaucoup plus facile. Bon, tout est travail, si on veut que ça soit réparé. Parfois, ça n'existe pas, mais que ce soit le mieux possible.
Quand vous commencez à travailler une chanson, vous travaillez d'abord à apprendre le texte et ensuite démarrer sur la musique, ou vous apprenez la musique et le texte en même temps ?
D'abord, quand on fait parvenir donc le texte et la musique, bon, prenons l'exemple d'une place dans mon cœur, j'ai aimé immédiatement. Et puis donc, j'ai écouté, j'ai appris le texte, j'ai écouté la musique, et après, j'ai appris le texte par cœur. Quand je rentre en studio, je sais tous mes textes par cœur. Parce que je trouve ça, et je trouve ça affligeant sur scène, quand l'on voit des prompteurs. Imaginez-vous chanter « Ne me quitte pas ». On regarde, ne me quitte pas. On n'a pas la même impression que si on chante « Ne me quitte pas ». Il faut oublier tout, peut s'oublier. Mais si vous regardez un texte, vous n'avez plus, vous éprouvez pas. Moi, je parle en ce qui me concerne personnellement, je pourrais pas éprouver les mêmes sentiments. Si vous lisez un texte, on peut l'avoir par sécurité. Moi, je l'ai parce que parfois, je me lance comme je chante par cœur. Je me lance, je dis mais c'est vrai, vous avez raison, je me suis trompée de texte. Mais j'arrive, j'apprends tout par cœur.
Les musiciens classiques peuvent jouer avec des partitions, donc c'est l'équivalent d'avoir un texte.
Oui, mais quand je trouve que quand on est en studio, déjà, on n'a pas un public. Le seul public que l'on a est le preneur de son et le chef d'orchestre. Donc quand je chante, c'est un ave du fond des yeux. Je parle et je m'adresse comme si c'était mon public. Déjà chez moi, mon public, moi toute seule. Et après, bon, j'ai ma sœur qui est avec moi, ma sœur Mathilde, qui parcourt le monde avec moi. Après, mais vous savez qu'à force de travailler, elle connaît toutes mes chansons et dans toutes les langues. Mais bon, j'ai besoin de savoir mes chansons par cœur.
Vous chauffez votre voix avant,
oui.
Vous faites des,
oui, le matin.
Vous faites des gammes. Vous
je
faites...
fais, je chauffe ma voix, je fais mes vocalises petit à petit le matin. Je pose pas la note très haut le matin parce qu'il faut chauffer sa voix. C'est comme un muscle, il faut chauffer petit à petit et pas d'un seul coup. Donc en faisant des vocalises pour le souffle et ouvrir sa voix. Et puis après boire, pour après rentrer en studio pour chanter.
On va écouter une. Deuxième chanson de vous, donc cette fois-ci une chanson de cette québécoise.
Ah Sophie, oui, Sophino.
Sophino, j'imagine, elle a trouvé, je vois le nom Côte, donc il y a des chances qu'il soit aussi québécois.
Il est québécois, alors je ne l'ai pas rencontré, je sais qu'il mesure 2 mètres. Lui est un des plus grands guitaristes pop-rock au Québec et je crois dans le monde. Il a fait partie d'un très grand groupe et donc il était guitariste et il fait de magnifiques mélodies. Rien de l'amour, donc c'est lui qui a fait la musique. Et Sophino qui est vraiment d'une simplicité humble, gentillesse, disponible. Et je trouve que ses textes sont magnifiques.
On écoute.
Je ne sais rien de la vie, du vent qui nous enlace, rien de l'eau, de la pluie qui danse dans l'espace. Je ne connais pas ce jour caché derrière la nuit. Je ne sais rien de l'amour, sa vérité me fuit. Je ne sais pas l'heure qu'il est quand le temps se repose. Rien de tous les secrets que les humains s'imposent. Je ne sais rien des détours que prennent les passants. Je ne sais rien de l'amour, d'aucun de ces amants. Rien de l'amour quand tu es loin de moi. Rien de l'amour et j'ai de plus en plus froid. Je n'arrive plus à dormir. J'en perds le son de ma voix. Ce n'est rien de l'amour quand tu es loin de moi. Quand tu t'éloignes de moi. C'est rien des voyages, les trains passent trop vite. Rien de tous les visages des gens qu'on évite. Rien des sorties de secours, rien de la voie lactée. Je ne sais rien de l'amour, ni du gardien de sa clé.
Pas le prendre mal, mais je trouve que vous avez jamais mieux chanté parce que vous mettez beaucoup de nuances dans votre chant.
Au contraire, ça ne me...
Un petit peu au début, vous arriviez, puis on envoyait le courant à pleine gomme.
Je suis une personne un peu comme ça, c'est vrai.
Oui, mais maintenant, il y a beaucoup de nuances. On a l'impression que vous avez une maîtrise mais totale de votre organe vocal.
Peut-être aussi que vous avez tout à fait raison, Hélène. C'est peut-être... Vous savez, quand plus on va dans ce métier, plus on travaille. Et comme je vous ai dit, rien n'est parfait, qu'on cherche. Et en plus, la musique aussi apporte ça. Il y a une osmose entre la musique, le texte. Donc, à un moment, ça éclate, rien de l'amour. Et puis, d'un seul coup, ça revient. Et il faut que la voix, et c'est ça. Quand on travaille sa voix avec Jeanine Rice, tout est lyrique chez elle. Donc, quand je fais mes vocalises, à un moment, on chauffe bien pour démarrer, petit à petit. Puis après, donc, en seul coup, on fait des gammes. Petit à petit, on monte, on descend, très fermé, très ouvert. C'est un plaisir. Quand je travaille avec elle, généralement, c'est le dimanche toujours, et je lui dis, Jeanine, j'ai l'impression que j'ai pris un bol d'air à la montagne. Elle me dit, c'est un très bon compliment, Mireille. Mais c'est vrai, parce que je sais, ça fait du bien, on est tranquille.
Quel morceau classique, vous, parce que j'imagine que vous travaillez sur des morceaux classiques.
D'abord, je travaille pour mes chats. J'arrive à mon magnétophone, j'enregistre tout ce que je fais pour écouter ses conseils, mes vocalises. Puis je travaille donc du classique Forêt, Tosti, oui. Et puis mes propres chansons. Oui. Et j'en parle, si elle me dit telle note, je dis écoutez, est-ce que je le fais bien? Je fais bien la note ouverte, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Elle m'a dit oui, c'est bien ça. Parce qu'en plus, cette technique ouverte, c'est tellement facile. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas acquérir ça la première fois. Oui. Une des choses qu'on doit apprendre... Quand on chante, bon, moi je suis très croyante, je pense, Dieu m'a donné cette voix, mais la première chose, au même titre que les danseurs, c'est le souffle. Et le souffle vient par là. J'ai eu la chance de travailler avec Jean Lumière. C'est Jean Lumière qui m'a enseigné le souffle. La première fois, il me disait, vous savez ma petite Mireille, avant on chantait sans micro, je n'ai pas beaucoup de voix. Et quand je chantais, donc sans micro, il fallait que ma voix porte. Et donc il m'enseignait le souffle. Mais c'est pas comme ça qu'on peut, c'est pas même 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, c'est petit à petit. Et je me souviens, à mes débuts, je riais parce que c'était un personnage atypique, c'était chez lui, c'était un Capharnaüm, je vous raconte pas. Alors, ma petite Mireille riait, il me disait, riez ma petite Mireille, je riais parce que j'arrivais pas à apprendre ce qu'il me disait, mais il avait raison, je savais.
Il vous a donné des bases.
Et après, j'ai pu acquérir ça. Mmh. Et puis après, quand on travaille son souffle avec Jeanine, ça va ensemble et c'est ce qu'il faut, vraiment. Il faut bien l'apprendre, ce souffle, c'est vrai, c'est important.
Vous n'avez jamais pensé faire ce qui se fait assez souvent aux États-Unis. Barbara Streisand avait fait un album qui s'appelait Barbara Goes to the Classic, où elle chantait même des mélodies. Elle chantait en patois auvergnat les chants d'Auvergne de Canteleu, vous voyez.
Ah, oui.
Mais elle les chantait à sa manière.
Bien
elle ne faisait pas la cantatrice. Elle les chantait comme une chanteuse qui a de la technique. Et vous penserez un jour un album de mélodies classiques.
C'est un souhait que je souhaite faire. J'en ai parlé avec Jeanine, mais elle aussi, il faut que ce soit parfait. Forêt, moi j'adore Forêt. Handel, j'adore Dank, sei dir Dank, sei dir Herr, du hast dein Wort, j'adore Handel. Rameau, Chopin, il y a plein, énormément, il faut
romances,
choisir.
Le répertoire des romances aussi.
Oui, Debussy, oui, c'est magnifique. Oui. Mais bon, il faut les travailler, les choisir, qu'on vienne bien.
Au boulot.
Mais non, au boulot, exactement, au boulot.
Alors, les Français fonctionnent beaucoup sur des modes. Alors, il y a une époque, les chanteuses, quand elles arrivaient, il n'y avait pas de micro, où elles devaient avoir de la voix. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de mode de faire chanter des chanteuses qui n'avaient pas beaucoup de voix. Alors je trouve qu'une chanteuse avec une toute petite voix, avec un bon micro, ça peut aussi être très joli. Mais les chanteuses qui avaient de la voix, tout d'un coup, on ne voulait plus les entendre, ce que je trouve un peu ennuyeux. Le résultat, on a eu tout d'un coup toutes ces chanteuses québécoises qui sont arrivées, parce que là-bas, on aime bien... quand une chanteuse est capable d'avoir un petit peu de boyau. Et je me rappelle, j'étais critique à cette époque à Libération, j'avais écrit un article sur une chanteuse qui était très, très, très à la mode. Et je disais, mais c'est drôle, elle se réfère toujours à la musique noire américaine, mais en fait, c'est pas si loin de ce que faisait Mireille Mathieu. Comment vous avez vu ce retour de mode où tout d'un coup, on a vu des Lara Fabian, on a vu des chanteuses arriver et puis montrer qu'elles avaient de la voix. Vous avez dû vous dire, ah bah tiens, on retourne un peu à ce que je faisais quelques années avant.
Ah, moi, je vais vous dire. Je ne juge personne parce que oui. C'est pas mon rôle et que ces chanteuses que vous citez, oui. Elles sont aimées par un public et il faut les respecter. Moi, en ce qui me concerne, je pense que pour moi, la plus grande est Madame Piaf. Elle poussait pas des notes, mais il y avait ses tripes qui sortaient. Moi, quand j'écoute une chanteuse, il faut qu'elle me donne la chair de poule. Tout à l'heure, je parlais de classique. Si je peux comparer Madame, ce n'est pas comparable. Dans le classique, pour moi, c'est Madame Maria Callas. Il y en a d'autres. Elle ne cherchait pas à faire des notes. Mais quand elle chantait... Oh, je me souviens toute petite.
Quand même, vous avez vu qu'il y a une espèce de vogue tout
oui,
d'un
tout
coup.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Où on entendait un peu moins de chanteuses asthmatiques.
Oui,
et
oui.
Un petit peu plus de chanteuses qui avaient quand même un vrai organe.
Oui, mais est-ce que ça vous donnait... Puis-je me permettre de vous poser une question? Est-ce que ça vous donnait la chair de poule, vous, Hélène?
Ça dépend desquelles. Certaines, il y en a une, oui. Je peux dire, son répertoire, je le trouve un peu faible, mais je suis allée la voir en spectacle. Et il y a un moment, vraiment, je me suis retrouvée avec la chair de poule et là, j'ai dit, je peux rien dire.
Donc, elle est très bien.
Il y en a d'autres, je trouve, c'est un peu technique. C'est un peu de la technique pour la technique et on cherche un petit peu l'âme. En même temps, en tout cas, c'est quand même aussi agréable.
Oui, d'entendre.
Une chanteuse peut avoir une petite voix,
oui,
ça peut être très joli. La voix de Jane Birkin est adorable. Mais de temps en temps, une chanteuse qui fait vraiment son métier de chanteuse, ça fait plaisir.
C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts, je suis tout à fait de votre avis. Pour répondre à votre question, Hélène, moi je pense que pour moi la plus grande était Madame Piaf et que personne ne pourra la remplacer. C'est unique et que moi quand j'entends quelques chanteurs, il faut que ça me donne la chair de poule.
Alors je vais vous dire une chose qu'une chanteuse, Ima Soumak, je ne sais pas si vous vous rappelez la chanteuse, qui avait 5 octaves, et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce que vous faites, et elle m'a dit tout le monde croit que ce qui est difficile c'est de chanter très fort, ce qui est très difficile c'est de chanter très doucement.
Oui. Elle a tout à fait raison, parce que quand je travaille avec Janine, je le fais ça aussi, des sons forts, exactement, parce que c'est le souffle qu'il faut garder encore plus et qui est plus difficile. Elle avait tout à fait raison de vous dire ça, c'est vrai.
Alors, je voudrais qu'on écoute une chanson qui n'est pas dans votre album, mais c'est une chanson pour laquelle j'ai toujours un
que vous avez
cœur.
Un faible, vous aimez, Hélène.
Voilà, j'ai un faible. Une chanson que vous avez écrite, Le Forestier, pour la musique, et Claude Lemel, pour les paroles.
De grand
nombre, pas des moindres.
Oui.
Et qui, je trouve, vous emmenait dans un autre domaine
que
votre
vrai.
Domaine habituel. Il y a la musique est un peu portugaise, brésilienne.
Oui.
C'est une petite ambiance comme ça. Et elle est presque toute en nuances.
Oui, je crois que c'est Maxime qui voulait ça. J'adore Maxime, c'est quelqu'un de délicieux. C'est un poète, tout le monde l'a dit, c'est vrai, c'est un poète. Il est d'une gentillesse, d'une disponibilité. On arrive chez lui pour travailler, c'est tout est clair, net. C'est quelqu'un qu'on peut croire comme ça, désordonné. Non, pas du tout. Il est quelqu'un qui aime son métier, qui est généreux dans ce qu'il fait, qui aime offrir, qui aime offrir. Il donne une chanson, c'est un cadeau. Et ça, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un bonheur de travailler avec lui.
La moitié de la distance au bon milieu de cette vie qui danse et recommence comme elle peut. À la moitié de ma chanson qui m'a le mieux suivi, la passion ou la mélancolie. J'ai la mémoire qui me fait des histoires et se déforme à l'ombre du passé. Un rire énorme quelquefois vient effacer le reflet sage et bien classé. À la moitié de la distance, au beau milieu d'un fado qui balance entre une avance et un aveu, à cet entracte de la pièce, faut-il changer de peau, de lumière, d'auteur ou de rideau? À la moitié de mes dimanches qui m'interdit de prendre ma revanche sur la farce des lundis, à mi-chemin de mes vacances, au pays de la vie, parenthèse en trop de paradis. J'ai des soupirs qui me font des sourires, des éphémères que je croyais des dieux, et des délits et des délires moins délicieux qu'un soir tendresse au coin du feu. À la moitié de la distance, au bon milieu de cette vie qui dans ses manigances mise à Dieu, à la moitié de ma chanson, va-t-il venir enfin le prénom qui manque à mon refrain? Maintenant je ne recommence pas à moitié, mon cœur est en partance, toute enfance, tout entier. À la moitié de ma romance, je lance un grand défi à la page blanche de ma vie.
Alors, je vous ai fait redécouvrir une de vos chansons.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Vous avez raison, Hélène. C'est très, très fado, c'est vrai.
Quand même, donc, vous êtes contente de voir que le public français redécouvre le fait que chanter avec des poumons, c'est aussi bien quand même.
Je pense que, bon, moi, je suis à la fois... j'ai la trouille, parce que, bon, c'est vrai que de chanter après... je vais fêter mes 40 ans de carrière sur la scène de l'Olympia...
40 ans de galère ou 40 ans de carrière?
Carrière, de carrière, pas de galère, non. Parce que bon, vous savez, comme chaque personne, on a des hauts et des bas. Mmh. Et c'est quand aussi on a des bas qu'on remonte le plus vite parce que ça vous motive. Enfin, en ce qui me concerne, je suis une battante.
Est-ce que vous trouvez que les Français sont injustes avec vous? Que finalement, on a l'impression que vous êtes plus écoutés dans le monde qu'en France parfois?
Non, je pense que
immensément connu, je veux dire, vous pouvez pas sortir dans la rue, mais les radios vous diffusent pas tant que ça, les télévisions.
Les télévisions, c'est moi qui choisis, j'en fais peu. Ouais. Alors là, j'en ai fait quelques-unes. Ouais. J'ai fait ce que j'ai souhaité. Et je peux vous dire, je voudrais pas qu'on prenne ça comme présomptueuse de ma part, mais toutes les télévisions que j'ai faites, on a eu les plus gros scores. Mmh. Les plus gros scores, il y avait parfois des demandes, mais j'ai choisi et j'en fais pas plus.
Parce que bon, vous avez subi des campagnes de presse épouvantables quand vous avez démarré, les gens. Vous n'aviez pas poussé trois notes. Vous n'aviez pas poussé trois notes que déjà.
C'est vrai.
Tout le monde.
Hélène, c'est vrai.
Même ce gentil Léo Ferré, le grand Léo Ferré, s'en prenait à vous. Enfin, c'était.
Oui, mais quand j'ai débuté, oui, c'est vrai que. Et en plus, j'arrivais, on me parlait, j'étais très timide. Je savais que j'avais tout à apprendre, que j'avais des lacunes. Donc, c'est pour ça que Johnny Stark a souhaité mon manager. A souhaité que je prenne des cours d'un professeur de maintien qui était Jacques Chazot, comment m'exprimer avec Robert Manuel. Bon, après, pour les langues étrangères, j'ai eu des professeurs. Mais je savais, mais j'étais vraiment apeurée quand je voyais un journaliste parce que je souhaitais qu'ils soient indulgents à mon égard, car je savais que j'avais ces lacunes, mais me laisser le temps. J'avais tellement de choses à apprendre. Je travaillais à l'usine à l'âge de 13 ans, demi, 14 ans. Me voilà propulsée sur la scène. Et heureusement que mon manager, Johnny Stark, quand j'ai débuté, que j'ai gagné le jeu de télé dimanche, je suis partie en tournée en levée de rideau, chanter trois chansons au spectacle de Hugo Frey, parce que pour me familiariser avec la scène et le public, je crois que maintenant, les chanteurs ont un hit, on les propulse et ils doivent en plus chanter. Ils ne savent même pas comment chanter, apprendre. Ils sont, c'est pas impossible, ouais. C'est impossible ça. Moi, je ne connais pas.
C'est très mauvais pour eux.
Parce qu'après, le chanteur, s'il n'est pas équilibré, il ne peut pas assumer tout ça dans sa tête.
C'est un métier qui s'apprend.
Oui, on ne peut pas faire ça du... Non, exactement.
Du jour au lendemain.
Et on a tous les jours à apprendre. Tous les jours. Chaque fois, je me dis, j'ai un truc... C'est encore une leçon. Ah oui, ça est une leçon. Et parfois, et plus je vais dans ce métier, et plus j'ai des doutes. Je me dis, est-ce que ça va être bien? Et là, je vais 4 heures avant au théâtre. J'ai besoin de m'installer, de me recueillir. Je suis bien, moi. Bon, c'est peut-être moins bien pour ma sœur et le maquilleur et toutes les personnes qui me suivent. Mais moi, j'ai besoin de m'installer et de me recueillir.
À part la France et Avignon, bien sûr, quel est le pays où vous aimez le plus chanter? Vous avez
partout.
Toute
je
une
me suis
histoire,
bien partout
une
parce
histoire
que bon...
étonnante avec les, à l'époque du bloc soviétique. Vous avez beaucoup, beaucoup chanté.
Chanté en russe, je parle.
En russe.
Mais dernièrement, j'ai été invitée par M. Poutine pour le 60e anniversaire de la victoire. Donc, j'étais la seule étrangère. Il y avait 10 000 figurants sur la place rouge. J'étais la seule étrangère à la demande de M. Poutine, mais qui avait fait un sondage. C'était le public qui avait souhaité que ce soit moi qui représente la France. Et je vais en Chine aussi quand je veux. C'est vrai que je chante autour du monde et que je suis privilégiée.
Quel pays vous vous sentez
ça m'est difficile parce que je suis bien partout et je reconnais que je dois aussi beaucoup au public allemand. Oui. Je chante en allemand, je parle en allemand. Tous les pays. Bon, la France m'a permis de naître, d'éclore. Et comme un oiseau, puisque les Allemands m'appellent Die Spatz von Paris, vous dites Die Spatz von Avignon, m'a permis de voler de mes propres ailes. Mais après, l'oiseau revient dans son nid parce que c'est là où je suis née, c'est la France.
On parle de cette dernière chanson, un peu d'espérance. Donc, Patrick Guirao, Francis Lai.
Ah, Francis Lai, ah, bien sûr, parce que Francis Lai, j'ai tenu pour ce 38e album et mes 40 ans.
Je trouve que c'est la plus belle de
elle
l'album.
Elle est très belle.
Si j'ose
très émouvante.
Et
ce mot espérance, et dans espérance, il y a aussi de l'espérance et à la fois, il y a une tristesse par cette espérance. Et quand j'ai appelé Francis, que je voulais qu'il m'écrive une chanson, je dis, mon Francis, tu ne pouvais pas ne pas être là pour mon... pour mes 40e anniversaire et dans cet album que tu sois là. Et je dois vous dire, comme tout à l'heure je vous ai dit que je suis très croyante, quand il m'a fait parvenir cette chanson, c'était les obsèques du Saint-Père sur la place Saint-Pietro. Et j'étais comme tout le monde, j'étais restée droite pendant 3 heures à pleurer. Et quand c'était fini, donc c'était 10h à 13h. Et puis on me dit, bon, il y a une chanson qui est arrivée de Francis, je l'ai écoutée. Et ça allait très bien avec les images du Saint-Père qu'on retraçait après au journal télévisé. Et cette chanson m'émeut énormément. Elle m'émeut, il y a de l'espérance, mais aussi de la tristesse dedans. Et puis, cette orchestration de Jean Musique qui est aussi un complice, parce que Francis a aussi besoin de travailler. Aussi, il fait partie de mes auteurs et compositeurs, Jean Musique, et quelqu'un aussi qui est un peu du style de Francis. Ils ont une très grande complicité. Ils ont très bien travaillé cette orchestration qui est très, très lente et très...
on dirait, majestueuse.
Oui, majestueuse. Est à la fois presque en requiem, presque. Et ça me fait penser un peu à Ravel, modestement. Mm-hmm. Hein. Mais ça avance, ça repart comme l'eau qui vient, cette espérance et cette vague entière qui arrive et que vous prenez. Et je le reçois comme tel, comme... une vague qui vient sur moi, sur le visage, pour me dire, bon, l'espérance, l'eau, c'est quand même quelque chose de bénéfique.
Mais il y a aussi un peu le relais avec Piaf, le fait qu'il l'a un petit peu connu. Que...
C'est vrai que Francis a travaillé
alors
avec...
Alors qu'il était tout jeune.
Moi, la première fois que je l'ai rencontré, quand on a rencontré d'autres auteurs, il y a eu donc Paul Moya qui a écrit mon credo, et Francis laissait ton nom, mon premier 45 tours. J'ai vu Francis, donc il habitait Clichy, vraiment... Et nous sommes descendus, c'était une espèce de cave. Et j'ai vu un garçon très timide, quand on connaît, plein de pudeur. Il a toujours cette même pudeur. Et avec un accordéon et une lumière rouge. Mais une très grande lumière rouge. Moi, pour moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai vu ce garçon chanter « C'est ton nom ». Et j'étais sous le charme, parce qu'il a un charme fou. Cette voix qui n'est pas une grande voix, on en parlait de voix, mais qui vous émeut. Et j'ai été émue parce qu'il interprétait. J'ai dit, oui, j'adore cette chanson. Francis est non seulement un ami, mais un très grand compositeur qui connaît pas la musique. Il a composé, il est un très grand mélodiste.
Il travaille à la feuille.
Voilà, exactement. Il est un très grand mélodiste. Et tout ce qu'il a fait, quand on dit Love Story, un homme et une femme, Billie Jean, il y en a tant d'autres, il en a fait beaucoup.
Il travaille pour votre tessiture. Vous sentez quand ça arrive qu'il a écrit en fonction de vos capacités, même peut-être essayer de vous faire aller un petit peu plus loin que vous penseriez que vous puissiez aller.
Quand on travaille avec Francis, on s'appelle. Il me dit, Mimi, mes amis m'appellent Mimi, écoute, j'ai fait ça, est-ce que ça te plaît, l'intro ? Ça te plaît ? Alors je lui dis, oui, j'aime ça, j'aime pas ou ça. Et c'est là je ne savais pas. On avait vu autre chose que j'aimais moins. Et je vous dis, il a fait parvenir ça. Est-ce qu'il avait compris ce que je voulais dire ? Parce que je lui dis, tu sais, j'ai d'autres chansons, je vais te les chanter un peu, ce qu'ont fait d'autres auteurs et compositeurs. Puis il me dit, bon, je crois que j'ai compris. Guirao est aussi un complice, il connaît bien Guirao. Et puis il me fait parvenir cette chanson, je l'ai appelée, je pleurais, j'ai dit ta chanson elle m'émeut, elle me touche énormément. Et bon, quand moi je pleure que ça me touche, je sais très bien comment je vais la chanter. Pour moi c'est ce que j'aime.
Ça c'est la chose qui m'intéresse quand vous recevez une chanson. Oui. Est-ce que vous imaginez tout de suite comment vous allez ensuite la défendre
oui.
sur scène?
Oui, oui.
Et là qu'est-ce qui vous est venu? Il y a des gestes qui vous viennent?
Il y a des gestes, il y a, je crois... ma voix qui ressent cette émotion et qui m'émeut. Qui m'émeut. Quand j'en parle, je vous en parlais tout à l'heure, j'avais l'âme aux yeux parce qu'elle m'émeut. Et je suis sûre que c'est une très grande, grande chanson, non seulement de CD, mais de scène, très grande.
Il y a des fois des chansons qui vont être moins bonnes en radio et qui sur
scène. C'est vrai
scène,
que ça arrive.
Il y a des chansons qui vont prendre une
tout
autre
à fait.
Dimension.
Oui, parce que il y a des chansons qui c'est vrai qu'on vous dit parfois il y a des chansons de scène. Oui, il y a des chansons de scène de disque. Il y a des chansons aussi qui sont très fortes pour la scène parce que je me vois très bien la chanter. Mon premier spectateur est ma sœur ou moi toute seule, mais je sais très bien que comment je vais être sur scène avec celle-là. Simple, hein.
Quand vous recevez une chanson qui vous plaît, vous faites une espèce de petite audition pour vos intimes d'abord.
Non, je dis à ma sœur, est-ce que tu sais, est-ce que je vais être bien pour ça? Est-ce que tu sens que comment je vais l'interpréter? Je lui donne une indication comment, si elle va percevoir ce que je ressens moi. Mais en ce qui me concerne, je suis une personne introvertie, secrète et d'une sensibilité, coefficient émotionnel très intense, très excessive. À fleur de peau chez moi.
Vous essayez toujours en fait de contenir vos... Quand vous êtes en public, vous essayez tout de suite de mettre une cuirasse pour contenir...
Non, pas en public. Pas pendant public, je ne triche pas.
Ah non, je ne parle
je
pas
pleure.
Sur scène.
Sur scène.
Dans la vie sociale.
Dans ma vie sociale, oui.
Vous essayez de vous protéger et de ne pas trop montrer vos émotions.
Bon, tout à l'heure, on en a parlé, j'ai commencé un peu à avoir les larmes aux yeux, mais sur scène, non, je me donne totalement.
Écoutez, on n'a plus qu'à... Allez, vous applaudir. On va se quitter donc en écoutant un peu d'espérance. Patrice Guirao, Francis Lay. Merci beaucoup d'être
venu avec
nous.
Merci Hélène, j'étais ravie Hélène.
Toujours certain, l'amour pourrait changer d'avis et revenir un beau matin malgré l'orage, malgré la pluie. Quand on est seul au monde, avec seulement des souvenirs et des histoires qui se confondent, c'est à peine plus dur que mourir sans un peu plus d'avenir.
Chanson Boom avec Mireille Mathieu, a été diffusée pour la première fois le 6 novembre 2005. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.